René de Sartre, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, le livre publié s'intitule Le Remplaçant. Finalement, ce livre est très différent que le livre que vous aviez imaginé au départ dans votre tête, parce que vous expliquez que souvent, vous imaginez un livre au départ dans votre imaginaire, dans votre tête, n'importe où. Vous n'avez pas d'endroit spécifique. Et puis, quand vous pénétrez l'univers des mots, c'est un autre livre qui s'inscrit, qui s'écrit. Car finalement, pour vous, l'écriture, c'est faire l'école buissonnière.
Oui, on peut dire ça. En fait, c'est, quand tout se passe bien, c'est l'écriture qui fabrique le livre plus que moi, je ne fabrique le livre. Alors, ça arrive à chaque roman. C'est-à-dire que pour écrire un roman, il y a un moment initial où... il y a une idée qui me vient, et puis il faut que je fantasme sur cette idée, que j'imagine un livre. Mais c'est vrai qu'en général, dès que je le commence, il cesse d'être ce que j'avais imaginé pour devenir ce qu'il va simplement être. Mais là, pour celui-ci, ça s'est passé de manière encore plus radicale, et je crois que le titre exprime assez bien ça. Il exprime plusieurs choses, c'est un titre très... rempli de plusieurs sens, porteur de plusieurs sens. Mais en tout cas, au départ, ce qui s'est passé, c'est que mon éditeur, Olivier Cohen, m'appelle et me dit « je lance une nouvelle collection. Le mot de passe pour cette collection, c'est ton héros favori. Alors si tu veux bien, tu vas écrire un livre. » Il me dit « il sera court et ce sera sur ton héros favori. » Alors moi, j'étais tout de suite très heureuse parce que j'aime bien les commandes. C'est quelque chose de très appréciable pour un écrivain. Et puis j'aimais bien aussi qu'il y ait un principe, une ligne directrice, et puis qu'on sache même que le livre allait être court. Donc il y avait déjà des informations. Et il me parle du héros et tout de suite, je trouve que c'est une très belle idée. Je suis très heureuse qu'il m'appelle, mais ça me crispe un peu. Je me dis, un héros, quand même, quelle responsabilité. Ça risque d'être un livre dogmatique, didactique. Est-ce que j'ai envie de ça? Et puis, j'avais pas du tout envie de ça, mais j'avais quand même des idées qui se sont mises à venir à mon esprit. Et la première idée, enfin, il y a deux idées qui sont venues en même temps, qui étaient écrire un livre sur Janusz Korczak, qui est un pédagogue polonais, un pédiatre, qui a été directeur d'orphelinat et qui a dirigé l'orphelinat du ghetto de Varsovie jusqu'en 1942, date à laquelle il a été déporté avec les enfants dont il s'occupait. Donc ça me paraissait être un héros tout à fait digne d'attention. Et de toute façon, l'histoire du ghetto m'avait toujours passionnée. Donc je m'étais dit, c'est ça que je vais faire. Et puis très vite, au même moment où s'est manifestée cette présence, s'est manifestée celle beaucoup plus modeste et beaucoup plus troublante pour moi de mon grand-père, qui n'est pas seulement le remplaçant de Korczak, puisque je voulais écrire un livre sur Korczak, je finis par écrire un livre sur mon grand-père. Donc il remplace Korczak dans le livre. Il se trouve aussi que ce grand-père est lui-même un remplaçant, puisque ce n'est pas le père de ma mère, c'est l'homme qui a remplacé le père de ma mère qui était mort en déportation, qui a remplacé cet homme mort en déportation auprès de ma grand-mère. Du coup, c'est remplaçant à plus d'un titre. Et c'est finalement, ce titre, il est venu très tôt et il m'a fait beaucoup réfléchir justement sur une histoire qui remplace une autre, sur accepter que les choses prennent leur place comme ça sans que je contrôle, voilà.
Alors justement, est-ce que pour vous, l'écriture, pour vous, c'est pour comprendre les choses, soit les autres à travers soi, soit à travers les choses, d'où le titre Le Remplaçant, et également cette image finalement qui correspond bien des poupées russes.
Oui, alors il y a un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain très nouvelliste américain qui s'appelle Grace Paley, et qui disait « j'écris avec ce que je ne comprends pas ». Et je trouvais que c'était une manière très juste de définir le rôle de l'écrivain, qui n'est certainement pas un rôle en surplomb, comme je suis là assise un peu plus haut. En fait, c'est vraiment pas la posture de l'écrivain. Au contraire, pour moi, l'écrivain est toujours en dessous, presque plus dans une position d'enfant, à ne pas comprendre, à accepter de ne pas comprendre et à chercher à faire quelque chose avec ce qu'il ne comprend pas. Donc moi, ça, c'est tout à fait ma démarche quand j'écris. Comprendre le monde qui m'apparaît très obscur et très opaque et très compliqué, et comprendre l'autre, ce qui est, à mon avis, beaucoup plus difficile et héroïque qu'on peut le penser a priori. Donc il y a cette démarche toujours du questionnement et d'interroger à la fois la ressemblance et l'altérité et à essayer de comprendre. Alors parfois, on comprend en écrivant des choses qu'on ne savait pas ne pas comprendre. Ça a été le cas pour ce livre. Il y a beaucoup de thèmes que j'aborde que je ne pensais pas aborder au départ, de questions auxquelles j'ai répondu alors que je ne me les posais pas, mais qui étaient sans doute des questions peut-être plus cruciales pour moi.
Alors, est-ce qu'on comprend également qu'on devient écrivain, la vocation d'écrivain, avec un grand-père absent, je dirais le premier grand-père, finalement, celui qui a disparu, parce que finalement, tant qu'on ne sait pas que les gens sont morts, on les garde vivants, et ça vous permettait justement d'imaginer des histoires déjà dans l'enfance.
Oui, c'est vrai que c'est un ressort très fort pour l'imaginaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'à la libération, beaucoup de familles ont attendu le retour des camps. Et certaines familles savaient que leurs proches étaient décédés, mais d'autres n'avaient pas de traces, n'avaient pas de preuves, et donc ont attendu pendant des mois, parfois des années, le retour, toujours possible, toujours espéré, du disparu. Et ma famille a été dans ce cas-là, puisqu'on n'avait aucune trace, et qu'on n'a jamais, on n'a toujours pas de preuves, en fait, que mon grand-père est mort. Mais enfin, il n'est jamais revenu, alors, on peut supposer. Mais il y avait cette idée, moi j'ai grandi avec cette idée que ma mère n'avait pas su que son père était mort. Et je trouvais ça, et on me disait, elle souffre de ça. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est merveilleux, au contraire, parce que tant qu'elle ne le sait pas, eh ben, il n'est peut-être pas mort. Et je crois que moi, ça me faisait beaucoup imaginer de choses. Je raconte dans le livre à un moment qu'il y a une compagnie d'air comprimé, je crois, qui porte, en fait, c'est un sigle. C'est des lettres qui se suivent et qui finissent par former un mot. Il se trouve que le mot que forment ces lettres est le nom de mon grand-père disparu. Et quand j'étais enfant et que je voyais passer ces camions, je me racontais qu'en fait, mon grand-père était revenu et que non seulement il était vivant, mais il avait fait fortune. Parce que je voyais passer ces énormes camions et j'en voyais souvent. Et je me disais, bon, ben voilà, en fait, je suis une riche héritière et un jour, il va débarquer, il aura retrouvé la mémoire, parce que c'était pas parce qu'il nous aimait pas, hein, qu'il nous avait, parce qu'il avait perdu la mémoire, alors il allait finir par revenir. Et donc, effectivement, quand il y a un manque, quand il y a un vide et de l'inexpliqué, ça crée effectivement, on ne peut pas s'empêcher de s'inventer des histoires. Alors après, on les raconte.
Vous les avez inventées, vous nous les racontez, parce que ce livre, ce n'est pas un livre enquête. Vous n'avez pas interrogé votre maman par rapport à votre grand-père. Vous avez préféré essayer de retrouver des souvenirs, de voguer dans votre imaginaire plutôt que la réalité. Et finalement, vous avez une belle expression qui dit que la réalité, la vérité, finalement, c'est l'émotion. C'est ça le plus important.
Oui, parce que j'ai toujours eu tendance à remettre en question ce qui m'était présenté comme vrai. Je ne sais pas à partir de quel moment on peut dire que quelque chose est vrai. Et c'est toujours une question que je me suis posée, y compris pour les livres. Par exemple, il y a un bandeau qui m'a toujours terrifiée dans les librairies, c'est « Histoire vraie », comme si c'était une plus-value. C'est-à-dire que le fait que l'histoire soit vraie, ben, c'est que le livre est encore mieux. Et ça, pour un romancier, pour quelqu'un qui travaille avec la fiction, c'est terrifiant. On se dit, zut, aucune de mes histoires n'est vraie. Je suis donc un peu moins bien. Et donc mais c'est assez drôle quand on travaille avec un matériau qui est réel, parce que pour le coup, alors je ne parle pas tant du grand-père disparu que du grand-père remplaçant. Et lui, il est réel, il existe toujours, il est toujours vivant. Il est à portée de main pour moi, à portée d'oreille. Et pourtant, quand j'écris, quand je décide d'écrire sur lui, je ne vais pas à la source, c'est-à-dire je ne vais pas le revoir, je ne vais pas revoir les albums photos, je ne vais pas questionner ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, toute ma famille. Je choisis, un peu contre cette dictature de l'histoire vraie, de faire une histoire peut-être fausse. Je prends le risque qu'elle soit fausse, puisque je travaille à partir de mes souvenirs d'enfance, de ce que mon grand-père m'a raconté, des histoires... de certaines histoires qu'il m'a racontées mais que je n'ai pas très bien retenues. Il y en a même que j'ai notées et que j'ai mal notées, c'est dire à quel point je ne suis pas très consciencieuse. Donc je décide, dans ce livre qui est un livre... Moi, je suis romancière, donc j'invente toujours des histoires, mais là, c'était un cas particulier puisque je travaillais à partir d'un matériau réel. Et bien même là, je finis quand même par faire de la fiction.
Vous regrettez d'ailleurs aujourd'hui que la réalité gagne de plus en plus de terrain sur la fiction. Alors là, vous nous proposez donc une fiction par rapport à ce remplaçant, ce grand-père remplacé. C'est un statut qui vous touche beaucoup parce que finalement, ce statut, ce n'est pas un statut évident de celui qui vient remplacer quelqu'un.
Justement, sur la thématique du héros, ça me paraissait intéressant de prendre, c'est presque le anti-héros par excellence, le remplaçant, puisqu'il est... par essence moins bien que celui qui a disparu. C'est, même si ce n'est pas vrai, là encore, on ne sait pas quelle est la vérité. Dans notre histoire familiale, je crois que beaucoup de personnes étaient reconnaissantes à cet homme qui a été mon grand-père et qui a été le remplaçant d'un autre grand-père, d'être moins beau, moins intelligent, moins charismatique, moins tout. Et ce n'était pas évident de pouvoir tenir ce rôle sur une vie entière, de l'assumer aussi bien qu'il l'a fait et de faire le final flamboyant qu'il a eu dans ces circonstances-là. Et moi, je me suis attachée à tourner autour de ce personnage de anti-héros. Alors, anti-héros, certes, puisque c'est un second rôle, c'est un remplaçant, c'est celui qui vient après, qui ne sera jamais à la hauteur, mais qui est du coup un personnage romanesque idéal, puisque tout reste à faire, tout reste à inventer. On est très libre avec une personne, un personnage en tout cas, comme celui-là.
Alors on va faire connaissance justement avec ce personnage de grand-père que vous intitulez Triple B. On posera la question après de savoir pourquoi justement l'appeler Triple B. On va prendre l'extrait où vous parlez du musée. Alors aujourd'hui on n'est pas au musée, on est dans une librairie et on va un peu faire plus connaissance avec vos mots.
Oui, là c'est un peu la genèse du livre. Alors c'est un commencement, mais c'est un commencement qui se situe quand même à 20 pages de la fin. Mais bon, c'est... C'est le principe de ce livre, tout est à l'envers. Je me sens rarement à mon aise dans les musées. Je m'y ennuie souvent. Je ne sais où regarder ni que faire. J'ai gardé de mon enfance une mauvaise humeur bougonne face à l'idée d'être captive de ce genre de lieu. J'ai vite mal au dos, la nausée me prend, il faut que je sorte. Mais un jour, au musée des combattants du ghetto de Varsovie, situé en Galilée, j'ai éprouvé un sentiment contraire. J'étais entrée dans une salle entièrement dédiée à la vie et à l'œuvre de Janusz Korczak, qui dirigea plusieurs orphelinats, dont celui du ghetto de Varsovie, durant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis assise par terre et j'ai pensé que je pourrais rester là des heures, que c'était ma place. J'allais être informée de quelque chose d'infiniment important pour moi. J'ai lu des textes, car Korczak était aussi écrivain, regardé des photos, visionné un documentaire sur sa vie. J'avais l'impression de le connaître. Je me sentais comme au jour de retrouvailles. Émue et fébrile, j'étais prête à recevoir une révélation, mais cela n'avait aucun sens. Korczak était mort en 1942. Je ne l'avais jamais connu, il n'était pas de ma famille. À la fin de la visite, pour me consoler de ne rien pouvoir saisir de cette histoire et me pardonner d'avance de ne rien en retenir, je me suis promis d'écrire un livre sur lui. Le problème avec les livres, c'est qu'ils n'obéissent pas à leur auteur. On choisit un héros, et voilà qu'un personnage secondaire brigue le premier plan. On construit une histoire, mais une demi-page d'écriture s'empresse de la déconstruire. Ce que l'esprit forme, chez moi, cela ressemble à des sphères parfaites, irisées, légères, comme des bulles de savon. La main l'alourdit et le brise. La sagesse voudrait que je renonce à l'ambition de diriger, de planifier, mais je m'obstine. Ce livre, celui que je suis en train d'écrire, était censé être un portrait du pédagogue polonais, mais dès les premières pages, le lapsus a œuvré. J'ai su très rapidement qui allait prendre la place de Korczak dans ce récit. Se superposer au personnage d'origine, profiter d'une vague ressemblance et de coïncidences historiques pour s'immiscer dans le projet, le faire dévier, le détourner irrémédiablement. Les deux figures ont toujours été mêlées. Dans la salle du musée, c'était déjà à l'autre que je songeais. Triple B est apparu et je n'ai pas pu faire autrement que de raconter son histoire à lui, lui sur qui je ne possède aucune documentation, lui dont j'ai si peu d'images, lui que personne ne connaît et dont tout le monde se fiche. Je voulais écrire sur un homme exemplaire et voilà que je m'attache à un exemplaire d'homme.
Alors vous l'avez dit, cet homme exemplaire, c'est donc ce pédagogue polonais qui s'occupait des enfants dans le ghetto de Varsovie, qui jouait un peu le rôle de parent, qui remplaçait les parents. Il faut quand même signaler qu'il a refusé de s'échapper du ghetto de Varsovie et donc malheureusement il a eu la triste fin que nous connaissons tous. Et donc c'est donc substitué à cet homme exemplaire, un exemplaire d'homme comme vous venez de dire, surnommé Triple B. Pourquoi le prénommez-vous Triple B ?
Alors parce qu'il avait effectivement plusieurs prénoms. En tout cas moi quand j'étais petite, tout le monde l'appelait Bouze. Et moi je trouvais vraiment que c'était un drôle de nom. Parce que pour moi, Bouze, c'était le nom d'une crotte de vache. Mais comme souvent, quand on est enfant, on n'ose pas vraiment demander. On se dit, tout le monde fait ça, les adultes ont l'air très à l'aise. Bonjour Bouze, Bouze, ça va ? On se dit, bon, moi je trouve ça complètement bizarre, mais voilà, ça fait partie des accommodements de l'enfance. Je pense qu'un jour, j'ai quand même fini par dire, mais enfin, quand même Bouze,
c'est pas sérieux ce nom. Et qu'on m'a dit non, mais c'est un surnom, c'est un diminutif pour Boris. Dans ma famille, on a toujours des diminutifs qui n'ont rien à voir avec le, c'est une autre spécialité, avec les noms. Et donc on me dit qu'il s'appelle aussi Boris. Et puis parce que quand je lui écris une carte postale, en fait c'est quand j'apprends à écrire, je pense que je dis, je vais envoyer une carte postale à papy. Alors je vais mettre Bous, comment il s'appelle en fait. On dit non, sur la carte postale, tu écris Boris Jean-Polski, c'est ça son nom. Donc j'apprends que mon grand-père s'appelle Boris. Et puis, encore un peu après, j'apprends qu'en fait il s'appelle aussi Barour. Barour qui était un nom hébreu, qui veut dire béni en hébreu. Et donc je me retrouve avec triple B, donc 3B, Bous, Boris, Barour. Et je crois que si dans le livre je l'ai appelé comme ça, je ne l'appelle absolument jamais comme ça dans la vie, c'est un nom qui a été fabriqué pour le livre et qui était une sorte de manière pour moi de le mettre à distance, c'est-à-dire de protéger l'homme qui s'appelle Papy pour moi, qui m'appartient et qui, voilà, et qui appartient à ma famille et qui n'a pas à être dans un livre. Donc mettre à distance et protéger la personne réelle, créer un personnage, puisque parfois il suffit juste d'un prénom, d'un nom pour créer un personnage. Et puis aussi, il y avait dans ce triple B un écho, ça doit être dans Tintin, qu'on dit triple bus, peut-être que Capitaine Haddock dit ça. Donc quelque chose d'un peu triple B, pour moi ça évoquait triple bus, une insulte un peu comme ça, un petit juron sympathique, un peu décalé, un peu qui se prend pas au sérieux, quoi. Et je me disais que ça me permettait aussi d'installer quelque chose de l'ordre de la dérision dans une histoire où je sentais que le tragique risquait très vite de l'emporter. Donc ça me permettait de calmer tous les jeux possibles.
Et puis finalement, c'est une nomination, je dirais entre guillemets, qui vous correspond bien, parce que vous vous définissez souvent comme une immigrée dans la République des lettres. C'est vrai que vous n'aimez pas ces cloisonnements, quels qu'ils soient, finalement, et c'est vrai que ces différentes identités, triple B, vous conviennent.
Oui, alors, c'est... émigrée, ce que je veux dire par là, c'est que par la force des choses, alors quand on commence à écrire, on ne pense pas à ces choses-là, mais on se rend très vite compte qu'on entre dans une case. On est une femme écrivain, très vite. Et puis, on est très vite... Alors, on est une femme écrivain quand, par exemple, oh là là, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, c'est l'ouragan, le raz-de-marée, beaucoup de femmes se mettent à écrire. Alors, tout à coup, on est une femme écrivain. On pensait jamais qu'on était... On pensait parfois qu'on était une femme, heureusement, mais on pensait jamais qu'on était une femme écrivain. Et puis, on devient aussi un écrivain français. Ça, c'est quand il est question d'exporter les livres et qu'on vous explique que les écrivains français, c'est de la merde, parce qu'ils regardent leur nombril et que c'est très ennuyeux et que c'est très intello. Et là, tout à coup, on est un écrivain français. Donc, on est un écrivain femme, on est un écrivain français. Et c'est déjà relativement pesant. Parce qu'en fait, quand on a commencé, on voulait juste raconter des histoires. Donc ce genre de cloisonnement, c'est d'autant plus pesant que quand on écrit, on oublie absolument qui on est. L'histoire dans ma famille, les histoires étaient racontées dans une première langue, puis traduites. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des histoires en arabe que je ne comprenais pas avant de les entendre en français. Donc après, quand les histoires vous sont parvenues de manière aussi métissée, c'est très étrange quand on vous dit « Oui, alors, vous êtes un écrivain français », et on fait « Ah, bon ?» Quand je m'appuie, ils ne sont pas là, ce n'est pas eux qui sont là. C'est malheureux, j'adorerais. Mais j'en suis très loin, pas seulement du point de vue de la qualité et de l'art, hein, mais de la place dans la langue, de l'appropriation d'une culture, de la compréhension du monde français tel qu'il est. Parce que pour moi, ça reste... Ah, les Français, c'est... Voilà, c'est un objet de contemplation pour l'instant.
D'où également vos différentes facettes. Vous écrivez pour les enfants, vous l'avez dit, vous faites des traductions également de Virginia Woolf, d'autres livres. Pour vous, justement, l'écriture, elle est toute azimut. C'est elle, justement, qui vous emporte. C'est pas vous qui décidez au départ.
Oui, c'est assez important pour moi de garder toutes ces possibilités, de jamais être cantonné ni à un genre, ni surtout à moi-même. C'est-à-dire que écrire pour les petits, les moyens, les tout-petits, puisque je peux aussi bien écrire pour des enfants de 4 ans que pour des ados, ça permet effectivement de pas se rétrécir. Et puis l'immense avantage qu'a la traduction, parce que je traduis pour les enfants, pour les adultes, et je traduis... Alors, je traduis pas énormément, je dois traduire deux livres par an, ce qui est déjà pas mal. Mais ce qui est passionnant, c'est que la traduction, c'est de l'écriture, mais sans le moi. Alors, c'est extraordinaire. C'est une vacance. Déjà que l'écriture, on n'y est pas, on s'oublie. Mais là, c'est comme si c'était ça porté à un degré supérieur. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement on n'est pas là, mais l'écrivain en soi n'est pas là non plus. On n'a plus que la langue, la maîtrise qu'on en a, l'intérêt qu'on lui porte, l'amour qu'on lui porte. Et puis, on met ses pieds dans les bottes de cet lieu, on est dans les bottes d'un autre auteur. Alors, quand on a la chance, par exemple, de traduire du Virginia Woolf, on a juste l'impression d'être un génie. Et on vit le génie de l'auteur, et ça ne nous concerne pas. On est au service de ça, et c'est complètement exaltant. Alors, c'est vrai que ça permet de ne pas être son propre singe ou... oui, en fait, c'est ça. Ce serait terrible, en fait, de se regarder, écrire et d'être toujours dans le questionnement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vaux? Etc. Là, c'est complètement absent.
Une autre forme de remplaçant.
Oui, c'est ça. Oui,
voilà, donc on l'a dit, ce livre en forme de poupée russe. On pourrait dire aussi un livre de mémoire, parce qu'il touche à la fois au côté intime et au côté universel. On l'a dit, ce n'est pas un livre enquête, vous avez inventé la fiction, l'a pris. Parce qu'à travers ce livre, vous posez la question, vous vous demandez pourquoi vous avez si mauvaise mémoire. Ça, c'est plutôt une chose... positif pour un écrivain d'avoir une mauvaise mémoire, non? Vous pouvez...
C'est très juste. J'ai longtemps cru que ça allait me jouer des tours terribles. Et peut-être que c'est le seul métier pour lequel c'est une bonne chose d'avoir peu de mémoire. Alors pourquoi c'est une bonne chose? C'est parce que on entend des histoires, on me raconte des histoires, et comme je me souviens jamais de ce qu'on m'a dit, je suis obligée d'inventer. Du coup, ça fait marcher mon imagination, et aussi je n'embête personne avec mes livres. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de déballer les histoires intimes de mes amis, de ma famille, etc., parce que je déforme tout. Il y a une formule une autre grande écrivain américaine qui s'appelle Flannery O'Connor et qui disait avec beaucoup d'humour « Mon cerveau est comme une moulinette, rien de ce qui en ressort ressemble à ce qui était entré ». Et j'aime beaucoup cette image très terre-à-terre. Elle a toujours eu des images comme ça, très, très violentes, très crues. Et le fait de ne pas avoir de mémoire, justement, permet ça, c'est-à-dire d'être toujours dans une élaboration, dans une transformation. Alors pour certaines choses, c'était plus embêtant. C'est-à-dire que, par exemple, ça m'a posé des problèmes dans ma scolarité, en histoire, en géographie. Encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à savoir où je suis. Là, par exemple, je suis en Belgique, mais si vous me dites de placer ça par rapport à la France, je ne suis pas très sûre d'y parvenir. Bon, mais alors je me suis demandé comment ça se faisait. Parce que en même temps, je suis très curieuse, c'est-à-dire que je m'intéresse aux choses, et on me les dit, et puis j'écoute, et puis presque 5 minutes après, j'ai déjà oublié. Alors je me suis posé la question, enfin non, je ne me la suis pas posée, c'est venu dans l'écriture de comprendre d'où ça venait. Parce que quand même, je me dis, c'est un peu bizarre cette maladie. Et en fait, c'est en racontant ce que je ne pensais pas du tout raconter dans ce livre, et ce que je ne pensais jamais raconter, qui était l'attente de ma mère et de sa mère au retour des camps, et toute cette période où elle ne savait pas que le père et le mari étaient morts, et où le fait où je me vois écrivant alors que je ne l'ai pas prévu d'écrire ça, savoir, c'est toujours savoir la perte. Et quand j'écris ça, alors que c'est une phrase qui me saute au visage comme si elle venait d'un autre cerveau que le mien, je me dis, ah, mais c'est pour ça. Pour moi, savoir, c'est toujours lié à la mort. Donc tant qu'on ne sait pas, ça reste vague, ça reste flou, on peut se raconter une histoire dessus, on peut imaginer. Et ça a été très clair, comme une... ça a l'air très simple, on se demande comment elle n'y a pas pensé plus tôt. Et pourtant, c'est le genre de choses qui vous restent opaques jusqu'au moment où elles sont tellement lumineuses qu'elles vous aveuglent. Mais c'est une des choses que ce livre m'a apprise, c'était justement que toute cette méfiance que j'avais, parce que c'est pas seulement que j'ai pas de mémoire, c'est aussi que quand on me dit quelque chose, je comprends autre chose, que je suis jamais sûre de quoi que ce soit. Mais même des choses idiotes, en tricot, je peux me dire, le point de mousse, c'est toujours à l'endroit, c'est toujours... Ah non, ça revient au même que toujours à l'envers. Ah non, c'est pas toujours à l'envers. Non, c'est une maille. Ah non, c'est... Mais je le sais, mais je peux pas le savoir. Donc c'est sur des choses aussi simples... que ça. Et cette réticence, cette résistance, ben, elle a trouvé sa résolution. Alors peut-être que grâce à ce livre, je vais retrouver la mémoire, mais je ne pense pas du tout que ça va arriver. Mais bon, on ne sait jamais.
Gardez la spontanéité qui fait vraiment l'émotion de votre écriture et de votre livre, comme les enfants finalement qui sont directs, qui ne sont pas encore, je dirais entre guillemets, parfois dénaturés par la connaissance et que tout est possible. Alors il y aurait énormément de choses à dire par rapport à ce livre, le remplaçant, puisqu'il y a pas mal de sens. Mais merci d'avoir été présent parmi nous pour nous en parler de quelques-uns. Et puis, n'hésitez pas, à vous qui êtes présents aujourd'hui, de venir rencontrer Agnès Dessart, qui se fera un plaisir de vous dédicacer le livre. Un très beau livre d'émotion, comme on l'a dit. Agnès Dessart, un très, très grand merci.
Merci à vous.